magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Blois, sur les bords de la Loire, à l'occasion des 21e rendez-vous de l'histoire qui ont pour thème cette année la puissance des images. Tous les pays produisent des images et suscitent un imaginaire. La France peut être à la fois le pays de la liberté et des droits de l'homme et celui des fromages, du vin, bref, du bien-vivre. Mais qu'en est-il de l'Europe qui n'est pas un pays, mais une union d'États-nations? S'il existe bien un hymne européen, l'Union européenne n'est pas incarnée par un président. 19 pays européens partagent une monnaie, l'euro, mais le dessin de ces billets est particulièrement insipide et n'aide pas à forger une image que les Européens pourraient s'approprier. Il reste un drapeau, 12 étoiles jaunes sur un fond bleu éclatant, et une capitale, Bruxelles, que bien des hommes politiques nationaux vouent aux gémonies sur le thème « si cela ne va pas bien chez nous, et par exemple en Val-de-Loire, c'est la faute à Bruxelles ». Alors l'Europe, quelle image et quel imaginaire? Pour en débattre à Blois, au café Fluxus de la Fondation du doute, deux dessinateurs et deux historiens, je vous les présente. Jean Plantu, bonjour.
Bonjour.
On dit Plantu, tout court. Hein.
Ouais, comme ouais. Vous le sentez.
Bon, on va dire Plantu.
Vous pouvez dire Jean. Hein.
À la fois, évidemment, éditorialiste du dessin chaque jour pour le quotidien Le Monde. Et puis, c'est important, vous êtes le fondateur de Cartooning for Peace. Un mot sur Cartooning for Peace pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça représente.
Alors, on l'a créé il y a 12 ans avec l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Et on l'a fait au lendemain des fatwas lancées contre les dessinateurs danois qui avaient été menacés de mort déjà dès 2006. Et donc Kofi Annan m'a téléphoné, m'a demandé de réunir des dessinateurs de presse du monde entier, de toutes religions, agnostiques, athées, pour qu'on puisse refaire des ponts entre les cultures, là où on sent qu'il y a des clivages, des malentendus et surtout beaucoup d'ignorance.
Pierre Kroll, vous êtes vous aussi dessinateur belge, du grand quotidien belge Le Soir. Alors évidemment, à Bruxelles, souvent, l'Europe s'inspire. Vous aurez l'occasion d'en parler. Comment on dessine l'Europe? Ben voilà, on va en parler, ce dessin. Je le connais par cœur et je l'adore. Pierre Kroll nous l'expliquera. Et puis deux historiens, Christophe Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire comparée des sociétés européennes à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Daniel Roche, professeur honoraire au Collège de France. Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat, deux mots sur vos actualités respectives. Plantu, vous venez de publier via Cartooning for Peace, Les droits de l'homme, c'est pour quand?
Avec un point d'interrogation, avec une préface de Christiane Taubira, qui vient au rendez-vous de l'histoire, et on a beaucoup de chance parce qu'elle nous fait beaucoup d'honneur, et elle commente à sa manière les dessins de ce livre qu'on a fait, Cartooning for Peace, Gallimard. On l'a réalisé avec mon équipe, avec Barbara qui est notre déléguée générale, avec Laure qui est notre responsable éditorial de Cartooning for Peace, que vous pouvez voir aussi chez vos amis de France 24 tous les vendredis. Et c'est la même boîte. Hein.
Bien évidemment, c'est France 24.
Et je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir, je ne sais pas pour toi, Pierre Kroll, au journal Le Soir, tous les dessinateurs, on est 184. Hein, on a presque tous raté nos études. En tout cas, moi, je suis l'orfèvre du ratage d'études. Et on a la chance de se retrouver à chaque fois avec des historiens, des enseignants. Et moi, je rattrape tous les jours les cours que j'ai loupés.
Vous êtes en formation permanente.
Mais oui, c'est génial. Mais j'apprends énormément et je peux me permettre de dialoguer comme ça avec Jean-Noël Jeannet, ici à Blois, ou hier avec Régis Debray. Alors Régis, rappelle-moi ce que tu disais sur les bonnes raisons de... Puisque je prépare un bouquin avec le recteur de la Mosquée de Paris qui va s'appeler « Les 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter ». Donc je le faisais réagir. Il me dit « Ah non, mais moi je connais des bonnes raisons de sauter ». Bon, alors donc...
C'était pas forcément les mêmes.
Non, ça lui arrive d'être sérieux quand même. Et donc, c'était un dialogue passionnant dans un autocar, comme ça, qui nous emmenait à Chambord. Et à la fois, je me dis, mais attends, je me rêve. Et puis là, on se retrouve avec des historiens.
Alors, Christophe Charles
qui doivent
et Daniel
connaître
Roche,
alors, le sujet.
Je pense qu'ils ont fait pas mal d'études, hein, puisque Daniel Roche est professeur honoraire au Collège de France, et vous avez sorti, non pas tous les deux, mais avec énormément de collaborateurs. Alors, c'est pas un pavé, c'est plutôt un menhir, hein. 2400 pages papier Bible. Un bon kilo et demi, facilement. Et une aventure que vous avez commencé, ou en tout cas dont vous avez eu l'idée, en 2005. Et 2005, c'est évidemment pas une date neutre pour l'Europe. 2005, c'est évidemment le nom au référendum constitutionnel sur l'Europe. Daniel Roche, en quelques mots.
C'est une initiative d'éditeur, puisque comme je le rappelais en discutant, c'est Claude Durand, un des grands éditeurs de la place, qui avait une responsabilité politique et une conscience de cette responsabilité, qui, un peu par hasard, bien que j'ai été un auteur chez Fayard, m'a demandé de m'occuper de l'entreprise, a eu l'idée de préparer ce dictionnaire.
Quelle est la philosophie de cette énorme encyclopédie historique de l'Europe ?
Montrer qu'il n'existe pas encore de l'Europe, mais que c'est bien de notre faute. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de la construction d'une civilisation qu'on a toutes les raisons de qualifier d'européenne, parce qu'elle s'est déroulée dans un cadre où tout le monde se reconnaissait comme européen à des moments divers et à des titres divers. C'est dans ce cadre et c'est dans ces conditions historiques qu'à l'heure actuelle, en sortant des très grandes crises que nous avons traversées et que, à cause de mon âge, j'ai connu dans ma jeunesse, l'idée européenne a eu enfin des chances de se développer concrètement. Il y a aussi d'autres raisons intellectuelles extrêmement importantes qui sont liées au changement de la dynamique intellectuelle entre les différents pays et des intérêts, en quelque sorte, que l'on pouvait porter autrement à cette construction.
Alors c'est chez Actes Sud, 2400 pages, je l'ai déjà dit, on n'est pas obligé de commencer à la première page et de terminer à la dernière page, c'est une encyclopédie, on ouvre au gré de sa fantaisie, de son désir et de son envie de connaître. Alors, avant de venir à Blois, je suis passé par la représentation de la Commission européenne à Paris, j'ai demandé à sa déléguée générale, Isabelle Gégouzeau, de nous faire partager son image de l'Europe.
J'ai évidemment des images de réconciliation, de l'Europe qui se réunit autour de l'idéal européen. J'ai une image plus visuelle, là, qui était plus liée à ce que fait la représentation de la belle image du drapeau européen sur l'Arc de Triomphe le 9 mai dernier, avec la colombe dessinée par Plantu qui volait sur l'Arc de Triomphe en symbole de paix. J'ai l'image, évidemment, du prix Nobel de la paix donné à l'Union européenne, celle de la réconciliation, celle de ses 70 ans de paix et de nos valeurs que nous portons très fort, qui sont parfois aujourd'hui remises en cause, mais qui sont l'ADN de l'Europe.
Et puis au-delà, en tant que professionnel de l'Europe, vous analysez un peu l'image de l'Europe auprès des Européens, ça s'appelle les eurobaromètres, c'est un système de sondage qualitatif, on va dire, profond, sur ce que les Européens pensent de l'Europe. C'est évidemment un peu contrasté.
Alors, on a une image générale quand on parle de l'Europe dans les médias. Je crois qu'environ dans 80% des cas, le mot Europe est associé au mot crise. Beaucoup moins aux réalisations de l'Europe. Alors, effectivement, l'impression qui flotte est une impression difficile, une impression de défiance. Mais lorsque l'on regarde plus précisément les sondages, on voit d'abord que la confiance dans les institutions européennes est finalement plus élevée que pour les gouvernements nationaux. C'est surprenant, mais c'est ce qui ressort des sondages. 42% pour l'Union européenne et pour la France, 31% pour le gouvernement national. Ça veut dire qu'il y a un problème plus global avec les institutions, qui est un problème général. On a 40% des Européens qui ont une image positive de l'Union européenne.
C'est beaucoup ou pas ?
C'est pas assez. Et il faut effectivement s'interroger sur pourquoi. Alors, il y a à la fois une très forte demande d'Europe. Quand on interroge les Français et les Européens sur de quoi a-t-on besoin de plus d'Europe et pourquoi, ils répondent qu'ils ont besoin de plus d'Europe en matière de sécurité, en matière d'emploi, en matière d'environnement. 79% par exemple considèrent qu'il faut plus d'Europe dans le domaine de l'environnement et ils ont raison.
Les Français ou les Européens tout
C'est à peu près pareil. Et ils ont raison parce que dans ce domaine en particulier, on ne peut être efficace qu'ensemble. Ce n'est qu'au niveau européen que l'on peut affronter le défi du changement climatique, de la transition énergétique. Si chacun travaille dans son coin, on ne peut rien faire. C'est vrai également dans des domaines contre la lutte contre le terrorisme où évidemment, on est face à des phénomènes qui sont des phénomènes mondiaux auxquels il faut qu'on réponde ensemble.
Alors avec Isabelle Gégouzeau, on a balayé un certain nombre d'images que produit l'Europe, de réconciliation, de paix, le drapeau européen, les crises aussi, le problème de confiance des Européens envers l'Europe. Mais Plantu, j'ai envie de jouer au Petit Prince, évidemment de Saint-Exupéry. C'est évidemment, dans mon cas, un rôle de composition, évidemment. Et j'ai envie de vous dire, Plantu, dessine-moi l'Europe.
On n'arrête pas.
Alors on s'y prend comment ?
Très simplement, parce que nous, alors, on voit bien, Isabelle Gouzeau le dit très bien, il y a un problème entre la compréhension d'une idée magnifique, l'Europe, puisqu'on est en paix quand même depuis 45, il y a peut-être de bonnes raisons, et à la fois des gens qui n'ont pas tort de dire, attendez, il y a un truc qui ne va pas à Bruxelles, et donc il faut tout revoir et revoir la manière de communiquer sur l'Europe, et dire les choses qui sont bien, et critiquer les choses que... Alors nous, notre boulot de dessinateur, avec Kroll du journal Le Soir, et en plus il est à Bruxelles, en plus il est bien et mal placé, eh ben on essaye de revoir un peu tous les aspects. D'ailleurs, on a une expo qui s'appelle, qu'on fait avec la Commission européenne, avec des dessins qui énervent la Commission et des dessins qui essayent d'être réconciliateurs. Et notre boulot, l'expo s'appelle Décoder les étoiles. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les maisons de l'Europe pour essayer de faire exprimer les gens et que, à chaque fois qu'on voit un dessin sur l'Europe, comme par exemple le dessin de Kroll, qui est magnifique.
Ce dessin de,
l'Europe en 1957.
On va demander à Kroll de l'expliquer.
Voilà.
Bon, mais vous savez, les dessinateurs sont toujours, n'aiment pas beaucoup raconter leur propre dessin. C'est un dessin en deux images, hein. L'Europe en 1957, traité de Rome, il y a donc,
c'est un conseil européen, donc il y a les chefs d'État et de gouvernement qui sont là. On est en 1957, ils sont six.
Ils sont six et il y a une dame, c'est souvent les dames d'ailleurs, comme ici, hein, qui apporte le café et elle dit café, point d'interrogation. Et les gens disent oui, merci. Voilà. Et puis en 2007, mais on peut dire également en 2018, ils sont 26 là, autour de la table. Et la pauvre dame, elle ne sait plus quoi demander parce qu'il y en a un qui demande un café au lait, l'autre un café noir, un sans sucre, un chocolat chaud, un thé citron, un thé, un jus d'orange, un café décaféiné, un thé léger, de l'eau, une vodka, une tisane, un café fort, un café sucré, un thé au lait. Je ne peux pas continuer. Voilà. Tous les pays européens. Je crois que tout est dit. Hein. C'est difficile. Une Europe a autant de pays qui en demandent des choses et qui en espèrent des choses différentes.
Alors c'est difficile de parler de l'Europe. On a envie d'en dire quand même un peu de bien malgré tout. Vous l'avez dit.
Mais oui, parce que le fait d'avoir la chance de réunir 28 dessinateurs à Strasbourg, au Parlement, et de dialoguer et de dire pourquoi on est amoureux de cette Europe, et à la fois, quand on va à Moscou, qu'on fait la même exposition sur l'Europe, Décoder les étoiles à Moscou, et qu'on tombe sur Zlatkovski, qui est un dessinateur russe, qui nous dit « mais vous êtes cons là, avec les migrants, vous accueillez n'importe qui ». Et c'est ça la grande richesse de Cartooning for Peace, c'est qu'on a des dessinateurs, 184, on n'est pas tous d'accord entre nous. C'est pas un club de dessinateurs figé dans un petit nombril uniforme, on est 184 dessinateurs qui dialoguons tous ensemble, et c'est grâce à ça, au lieu de se jeter des noms d'oiseaux à la Mélenchon ou je sais pas quoi, ou à la Le Pen, eh ben on essaie juste de construire l'Europe en disant « ouais, mais là-dessus, t'as raison ». Là, l'autre jour, j'ai regardé l'émission de France 3 avec Élise Doucet. Évidemment que l'Europe, elle a intérêt à revoir la manière dont on fabrique les cuirs pour les grandes compagnies de la mode. Et donc, l'Europe, elle laisse faire. Et à la fois, il y a Moscovici qui est là et qui répond et qui réagit. Et je me dis « tiens, il y a un truc à prendre ». Il faut arrêter de se jeter des noms d'oiseaux et de s'insulter et d'essayer de construire ensemble ce qu'on peut faire de mieux pour l'Europe.
Alors Pierre Kroll, l'Europe c'est quand même la complexité, c'est difficile d'expliquer la complexité dans un seul dessin.
Justement, nos journaux nous demandent rarement de dessiner vraiment sur l'actualité européenne, même lorsqu'on est dessinateur à Bruxelles, parce que souvent c'est trop compliqué. Ou alors ils nous le demandent quand, oh là, il y a une décision très compliquée, tu vas nous simplifier ça. Je pense qu'il faut savoir lire les caricatures, surtout quand elles sont nombreuses, je ne dis pas une par une, à l'envers si vous voulez. C'est-à-dire que nous, caricaturistes, nous ne sommes jamais aussi bons que pour dénoncer quelque chose, pour nous moquer de quelque chose, pour être impertinent, pour faire ce qu'on peut pas, etc. Donc lorsque Plantu dessine tous les jours sur Macron, il ne dessine pas tous les jours pour dire qu'il est beau, qu'il est formidable et qu'il est intelligent, Macron. Ça s'appelle de la propagande. C'est justement ce que nous, caricaturistes, nous détestons le plus. Et dans des pays où les caricaturistes sont jetés en prison, c'est parce qu'ils ne font pas assez de propagande. Mais ailleurs, on n'aime pas faire ça non plus. Donc on n'est pas là pour faire la propagande de l'Europe. On est régulièrement appelé à en parler et donc on la critique. On critique ce qui va pas ou ce qu'on pense que le peuple, les gens, n'aiment pas dans l'Europe. Et toutes les caricatures, moi j'ai été commissaire, si on peut dire, d'une exposition devant Beaubourg, là, dans le centre culturel, sur les caricatures et l'Europe, en réunissant des dessins qui venaient de Lituanie autant que de Bulgarie et d'Espagne. Tous ces dessins ont l'air d'être anti-européens, pris isolément, parce que tous, ils critiquent quelque chose de l'Europe. Et tous ces dessinateurs sont tous des dessinateurs, au fond, pro-européens. Parce que, je ne vais pas dire bêtement qui aime bien châtie bien, mais on parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on veut voir devenir, et donc on critique ce qui ne va pas, c'est une manière d'aimer ce qui devrait aller bien.
Alors, Christophe Charles, Daniel Roche, la complexité, c'est aussi le domaine des historiens, et c'est compliqué d'expliquer l'Europe.
Oui, c'est une histoire épouvantable, puisqu'on passe son temps à s'entretuer pendant des centaines d'années. On a eu 70 ans de paix, mais enfin avant, ça a été quand même le carnage tous les 20 ans, ou un peu plus. D'autre part, les Européens ne s'aiment pas beaucoup entre eux, ça c'est pas nouveau, c'est pas depuis qu'ils n'aiment pas le même café, c'est qu'il y a eu des tas de raisons de s'entretuer indépendamment des guerres. Il y a eu les religions, religions, hein, pour ne pas les nommer. Il y a eu ensuite les rivalités coloniales. Et puis, il y a eu, bien sûr, les empoignades économiques. Là, on est toujours dans l'histoire actuelle. Et tout ça fait une histoire, évidemment, ponctuée de guerres, de crises, d'épidémies, d'invasions, d'émigrations forcées. Et donc, cette année, on est encore en train de commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. On voit bien que tout ça n'est pas de l'histoire très ancienne. Et puis, on va encore recommencer une autre commémoration pour la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, on a un énorme passé et un énorme passif. Et il faut surmonter tout ça pour se dire, bah, à quoi ça a servi tout ça finalement? Puisque maintenant les Allemands et les Français s'aiment bien, ils se réconcilient. Est-ce qu'on pourrait pas tous faire ça? C'est-à-dire pas seulement les Allemands et les Français, mais la totalité des peuples européens qui ont exactement fait les mêmes erreurs, les mêmes conflits, les mêmes massacres, pour finalement après se dire, qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc faisons autre chose. Tirons parti de cette histoire négative pour construire une histoire positive.
Alors, Plantus, que Christophe Charles, c'est évidemment le temps long. Il dit 70 ans, c'est rien dans l'histoire de l'Europe et de l'humanité, alors que vous, évidemment, vous devez saisir l'instant.
Oui, et on prolonge nos énervements. Parce qu'on est européen et on est d'abord des citoyens. Mais vous savez, vous n'imaginez pas à quel point nous, dessinateurs, on se sent proche du citoyen qui, des fois, a envie de jeter des tartines de biscottes contre le poste quand il y a tel ou tel qui s'exprime sur l'Europe. Et on a des choses à dire. Et en fait, on dit, attends, on se calme, je suis dessinateur. Et on va le raconter, et ça fait du bien. Et ici, à Blois, il y a un dessinateur qui s'appelle Kishka. Et Kishka, il est israélien. Et lui, c'est comme ça qu'il voit l'Europe avec une agrafeuse. Alors, qui essaye d'agrafer les 28 États qui sont un petit peu disloqués. Mais il y a quand même cette agrafeuse européenne qui va peut-être faire du boulot. Et pendant que vous parliez, je regarde si vous avez fait un article sur le drapeau, et je vois qu'il y a un papier de Pascal Horry qui est ici présent à Blois et qui a fait un papier sur pourquoi il y a les 12 étoiles, pourquoi la Vierge Marie, pourquoi le bleu, moi ça m'intéresse toujours.
Pierre Kroll, vous qui habitez Bruxelles, qui dessinez de Bruxelles, votre imaginaire passe par ces grands bâtiments, ce quartier européen où vous êtes sur les symboles européens, le drapeau, le bleu, les étoiles, plutôt que le Berlaymont qui est le grand immeuble de Bruxelles.
Il se fait aussi Juncker, hein, et il se gêne pas. Hein.
Oui, au niveau du vocabulaire et des clichés, j'emploie les mêmes qu'un dessinateur d'un autre pays, lorsqu'on parle de cette supranationalité qu'est l'Europe, quoi, de cette institution. Ce sera aussi le drapeau, ce sera aussi la même chose, peut-être un peu plus les bâtiments, mais c'est ceux qui nous parlent, ils sont pas si nombreux, je crois que vous les reconnaissez aussi, le Berlaymont, je vais pas les nommer, les bâtiments de Bruxelles, vous les reconnaissez. Ce que je dirais surtout comme particularité pour un caricaturiste belge lorsqu'il dessine l'Europe, c'est que la Belgique est quand même une petite Europe. Nous sommes quand même des pays, des peuples un peu différents, qui s'en donnent pas si bien que ça.
Mais en même temps, pas si mal.
Et pas si mal non plus. Voilà,
paradoxalement, ça marche.
Qui parlent tout le temps de se séparer, qui le font pas, qui parlent, voilà, c'est un couple très, très, très difficile.
C'est un peu le laboratoire de l'Europe, la Belgique.
Exactement. Donc, on a un peu de mal à comprendre, à chaque fois par exemple, le Brexit, quoi. Je me prononcerai même pas, parce que le dossier est quand même très, très compliqué. Mais, de prime abord, on comprend pas ça. La décision, maintenant, d'en revenir à la liberté dans chaque pays de décider de l'heure, qui ne sera plus d'été, d'hiver, qui ne changera plus, etc. Mais, nous, comme Belges, on dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Nous, on connaît tout le temps des histoires qui sont compliquées à résoudre. Là, on avait trouvé un truc qui déplaisait à 17 personnes en France, 12 en Belgique et 23 en Allemagne, eh ben, on va les écouter comme ça, on donne l'impression qu'on a écouté le peuple, et on est reparti, où chacun va décider de son heure d'hiver, d'été, quand il voudra, et ce sera plus la même à Varsovie. Bon, moi, c'est pas grave, hein, j'en mourrai pas, mais ce regard belge, si vous voulez, c'est celui-là, c'est celui de nous, l'arrangement permanent entre des gens qui ne s'aiment pas toujours beaucoup, et on voudrait au moins que l'Europe soit ça, ça nous paraît possible.
Et puis, le changement d'heure d'été, il faudra l'expliquer aux vaches européennes, parce que c'est pas simple. Hein. Il faut leur dire pourquoi elles vont changer l'heure de la traite.
Moi, j'ai fait un dessin très simple là-dessus, c'était puisqu'on va faire une votation, un référendum, semble-t'il, peut-être dans le Benelux, vous voyez, on repart à zéro. Hein,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg,
pour essayer qu'au moins nous, on est la même. C'est déjà pas trop bête,
pas gagné.
Voilà, on recommence à zéro. Et donc, il est question de faire un référendum. Donc, j'ai fait une dame dans l'isoloir qui dit, donc je dois choisir heure d'été ou heure d'hiver maintenant. Eh bien, on pourrait pas faire l'heure d'été en été et l'heure d'hiver en hiver. Voilà.
L'Europe dans ses contradictions, Carrefour de l'Europe est à Blois, au rendez-vous de l'histoire. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance, justement, des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Blois, au rendez-vous de l'histoire, qui ont pour thème cette année la puissance des images. Avec nos invités, nous nous interrogeons sur l'image, sur les images que suscite ou non l'Europe, et sur cet éventuel imaginaire commun qui pourrait ou pas faciliter le vivre ensemble. Autour des micros de Carrefour de l'Europe, posé au café Fluxus de la Fondation du Doute, Plantu, dessinateur et fondateur de Cartooning for Peace, Pierre Kroll, dessinateur au quotidien belge Le Soir, Christophe, Charles et Daniel Roche, ils sont tous les deux professeurs d'histoire et ils viennent de publier l'encyclopédie historique de l'Europe chez Actes Sud. Plantu, c'est plus facile de dessiner l'appel, la réconciliation, en gros la colombe, qui est un dessin qui revient souvent chez vous, ou au contraire les crises, et par exemple depuis quelques temps la crise migratoire, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est plus facile les crises, c'est plus facile pour nous. Comme citoyens, nous, on rigole pas, mais comme nous tous ici, à Blois, la paix, c'est beaucoup plus difficile à faire. Je l'ai fait au moment où l'Europe a obtenu le prix Nobel de la paix, parce que d'abord, je trouvais que c'était mérité. Donc j'ai fait un immense dessin, qui a d'ailleurs été montré sur le Berlaymont, un dessin qui faisait 60 mètres de haut. Mais à la fois, évidemment, c'est plus facile, mais à la fois, les crises, elles nous occupent tout le temps. Ça, c'est un dessin que j'ai fait en 89, où on voit de part et d'autre de l'Allemagne, RDA et RFA avant 89, et on voit le mur de séparation avant 89, on ne pouvait pas se rencontrer. Et puis je montre une image après, aujourd'hui tout est possible, alors on dit, ah, c'est génial, c'est beau l'Europe. Et à la fois, chacun, comme un petit homme sandwich, il a un petit morceau de mur derrière, et puis finalement les gens ne se parlent pas, et je l'ai fait avant la crise des migrants. Et je vois bien que aujourd'hui on dit, ouais, on se parle d'où les 28, mais à la fois il y a des gens qui sont oubliés, et puis il y a 60 millions de pauvres en Europe. Et là, je me dis, là, il y a un truc qui va pas quand même.
Christophe Charles, Daniel Roche, l'Europe, c'est souvent des contradictions, des lenteurs, de la bureaucratie, qui facilite un petit peu, j'imagine, le travail des dessinateurs. Mais c'est aussi l'espoir. Et en ce sens, les migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe par des moyens de fortune et au péril de leur vie, souvent, eh bien, ils sont très, très européens, car ils voient l'Union européenne comme un espoir, un Eldorado, que nous ne voyons plus forcément.
Christophe Charles. Oui, c'est clair que si on va quelque part, c'est qu'on trouve que c'est mieux que là où on était. Donc, ça prouve qu'il y a une image positive, en tout cas, un espoir d'une image positive de la part de ceux qui veulent, bien sûr, rejoindre ce continent, alors qu'effectivement, en interne, on voit toujours ce qui ne va pas. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, comme on dit. Et on se plaint de ce qui vous déplaît et on oublie tout ce qu'on a que les autres n'ont pas. Alors en même temps, il faut aussi remarquer que ceux qui refusent ces migrants, en tout cas qui voudraient les écarter ou les arrêter, c'est parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas et qu'ils ont peur qu'on leur prenne. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une conscience inconsciente qu'on a des choses irremplaçables que n'ont pas les autres, la liberté de penser, la liberté d'expression, une capacité quand même d'éducation universelle qui est encore très rare dans beaucoup de pays. Et bon, même s'il y a 60 millions de pauvres, la pauvreté européenne n'a rien à voir avec d'autres formes de pauvreté d'autres parties du monde. Donc en termes d'avantages relatifs, c'est clair que l'Europe reste quand même un lieu enviable et envié.
Daniel Roche.
Je crois que toute une partie de l'amorce de la discussion a mis en valeur deux choses. Premièrement, l'histoire de l'Europe ne peut pas se lire avec une seule échelle spatiale, et deuxièmement, elle ne peut pas se lire avec une seule échelle chronologique. Tout ce que nous évoquons sont des choses pour la plupart immédiates, à partir desquelles nous croyons que le passé a fonctionné. Or, vous parlez de drapeau, voilà bien une chose bien récente dans l'Europe. Le drapeau est une invention très tardive de l'époque moderne, on a réussi à s'en passer pendant des décennies. Vous parlez de la diversité belge, 3 possibilités ou 4 possibilités. Mais pendant combien de temps l'Empire germanique a réussi à se construire et à vivre avec 90 ou 100 principautés, avec à l'intérieur bien sûr une hiérarchie, mais qui acceptait une désunion dans l'union, une union dans la désunion, qui fonctionnait, mais qui par moments ne fonctionnait plus. Si vous n'acceptez pas de lire l'histoire de l'Europe avec cette première diversité chronologique et cette première diversité géographique, à ce moment-là, vous unifiez tout par le haut ou par l'aboutissement souhaitable qu'on ne peut que souhaiter, que tout soit pacifié et que tout soit unifié dans des comportements corrects, etc. Mais vous oubliez des choses essentielles. L'Europe, terre d'accueil des migrants, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Au XIXe siècle, nous inondions le monde avec nos migrants qui ont construit les États-Unis, et d'autres pays de l'Europe. Donc je pense que ce qui a dicté la démarche de l'équipe éditoriale, les uns et les autres à leur échelle, parce que nous n'étions pas tous spécialistes de la même façon et de la même chose de cette histoire, c'est d'essayer de comprendre cette double, en quelque sorte, manière de lire l'histoire que nous ont enseigné les grands historiens du XXe siècle.
Alors, la devise de l'Union européenne, c'est « unie dans la diversité ». Ce que vous avez dit, c'est que finalement, on peut être unie dans la désunion.
L'Europe réussissait à certains moments à être totalement unie dans la désunion, avec des conflits, avec des accords, avec des traités. Vous remarquerez que dans cette histoire que vous avez sous le bras, là, il y a beaucoup de batailles et il y a beaucoup de traités diplomatiques. Parce qu'on ne peut pas s'en passer, parce que c'est des moments où se redistribuent les cartes.
Pierre Kroll.
Je trouve cette mise au point, forcément, professeur, tout à fait remarquable. À propos, parce qu'on parle de quoi, là, ici, et je suppose beaucoup dans votre livre, de l'Europe, des institutions européennes. Donc, vous avez pris comme premier exemple de dessin le mien, je vous en remercie, qui parle du traité de Rome de 1957. Mais l'Europe, le mot l'Europe, préexiste à ça et existera, même si elle doit être dissous. Moi, j'ai un dessin là-dessus un peu ironique, parce que c'est aussi un des moyens du dessin de presse, c'est l'ironie. C'est suite au Brexit, là, je dessine un pauvre migrant dans l'eau, ou sur sa barque, enfin, qui dit mais si l'Angleterre n'est plus en Europe, elle est où? Parce que c'est là qu'il veut aller, hein, tous les migrants qu'on a en Belgique, ils ne veulent pas rester en Belgique, ils veulent aller en Angleterre. C'est pas, ils ne veulent pas venir en Europe, ils veulent aller en Angleterre. Et s'ils veulent venir en Europe, c'est qu'ils veulent venir dans une terre de pays riches, pas dans une institution européenne dont ils n'ont jamais entendu parler, dont ils se foutent complètement. Donc c'est vrai qu'il faut tout le temps garder ça à l'esprit. Et puisque vous parlez de la devise, je reviens à la Belgique comme exemple et contre-exemple qu'on peut prendre, la devise de la Belgique, vous la connaissez, c'est quand même formidable. C'est l'union, c'est la force. Je veux dire, on l'a jamais réussi une seule fois, hein, à être plus fort, uni. On fait tout le contraire, en permanence.
Dès la fondation du royaume de Belgique.
Je crois que c'est très peu de temps après. Et effectivement, c'était quand même sous le premier roi, Léopold Ier, qui, rappelons-le, puisqu'on parle de président européen, qu'on n'a jamais trouvé, etc. On prenait des rois pour créer des nouveaux royaumes comme la Belgique, comme on prend un CIO, hein. On est allé chercher un monsieur en disant, il aura les compétences pour le faire. On lui fait épouser une française parce que c'est bienvenu pour la politique de l'époque. Et vous connaissez le testament politique de Léopold Ier sur son lit de mort. Il a dit, j'aurais tout essayé, ça marchera jamais. Ça tient toujours. Donc voilà, inspirons-nous peut-être de cette petite...
La monarchie mise à part, je crois que ça pourrait être une incitation à travailler plus loin.
L'histoire de la Belgique est quand même très rassurante pour l'histoire de l'Union européenne. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui en Europe de président européen qui pourrait nous aider à visualiser l'image de l'Europe. Vous le regrettez, Pierre Kroll, parce qu'on a évoqué un instant Jean-Claude Juncker, c'est pas le président de l'Europe, c'est le président de la Commission européenne, c'est pas tout à fait la même chose.
Je peux pas vous répondre comme ça, parce que un président... C'est avant tout la manière dont il est élu président. Vous parlez de la monarchie belge. Nous avons une monarchie très républicaine, puisque nous avons un roi. Vous savez comment je résume les deux histoires? Très simple, belgo-française. En France, le roi, vous lui avez coupé la tête, hein. Tout le monde le sait. Donc, du coup, il n'y a personne sur le trône. Donc, tout le monde veut se battre pour l'occuper, le trône, le plus possible. Et le plus violemment possible pour y avoir le pouvoir qu'avait le roi. En Belgique, on a pris un roi, mais on lui a coupé les couilles. Pas la tête. Ce qui fait qu'il n'a strictement rien à dire. Rien à dire. Mais il est sur le trône. Donc, la place, elle est occupée. Et en plus, personne ne veut l'occuper de peur qu'on les lui coupe aussi. Donc, on est tranquille de cet aspect-là. Et on a donc une politique relativement apaisée au niveau de sa violence par rapport à la vôtre. Moi, je suis effaré de voir les campagnes électorales avec votre système majoritaire à un seul tour en France, où en fait, il faut tuer tous les adversaires pour arriver le premier. Nous, on vote demain dans mon pays, dans toutes les municipalités, partout, on va faire des coalitions, où on va mettre un peu de gauche, un peu de droite.
Alors, parfois, il faut une année pour former la coalition.
Oui, bien sûr, même plus. Pour revenir à un président européen, comment allons-nous les lire? Si c'est un président comme le président allemand, comme un président italien qui est choisi par les autres, c'est une sorte de président. Si c'est un président comme le président français qui est le vainqueur de tout à la fin et à qui on donne tous les pouvoirs,
ça devient un empereur.
Ce sera très autre chose. Voilà. Donc je ne peux pas vous répondre.
Plantu, j'aimerais avoir votre avis sur cet instrument qu'on utilise tout le temps dès qu'on ouvre son porte-monnaie, les billets d'euros.
Je vous ai entendu dire que vous n'aimiez pas beaucoup le dessin.
Enfin, je trouve la monnaie pratique, mais le dessin, horrible.
Je les aime bien.
Ah bon?
Attendez que je regarde. Non, j'aime bien. Non, il n'y a rien qui me choque. Non. Évidemment, ça manque de caricature, mais évidemment, ça va pas plaire à tout le monde.
Non, Daniel, on n'a pas raté une occasion de faire quelque chose de très européen avec des philosophes européens, des penseurs européens, des grands monuments européens qu'on aurait pu partager de Tallinn jusqu'à Lisbonne, de Dublin jusqu'à Athènes, par exemple.
Vous devriez proposer à la Commission de nommer un historien pour réfléchir aux archives du choix de l'Europe et de l'euro. Parce que ça a duré pendant des mois et des semaines pour savoir quels seraient les motifs que l'on retiendrait et comment on concilierait les caractères nationaux et les caractères transnationaux, en quelque sorte. Ça reste à faire. Il y a des jeunes historiens ici. Ils peuvent peut-être commencer à s'y mettre.
Alors, si tu avais l'air très satisfait, Pierre Kroll, vous avez hoché la tête en disant quand même ces billets de 5, 10, 20 et 50 euros. Et un peu au-delà, c'est pas très satisfaisant. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en vous regardant.
Ah, moi, j'étais plus dubitatif, c'est que je me souviens même plus de ce qu'il y a dessus.
Ce n'est pas que vous avez tout dit.
Au début, j'avais applaudi aussi à l'idée de mettre des monuments.
Il travaille au journal le soir, il est coincé de guerre, donc il n'a pas d'argent.
Un peu de littérature avec ça, qu'on se demande c'est quoi ce truc. Ah ben, c'est une cathédrale de Lituanie, c'est marrant. Mais maintenant, c'est devenu voilà, un peu trop simple. Je ne regarde plus que le chiffre. C'est à quoi sert un billet, d'ailleurs.
Non, ce qui est frappant, c'est que c'est très classique, en fait.
Christophe Charles.
C'est un euro très classique. C'est un euro qui met en scène une architecture d'autrefois, enfin, du passé. Et donc, du coup, ça renvoie finalement à ce qu'on appelle les racines classiques de l'Europe. Mais ces racines classiques de l'Europe ne concernent qu'en fait qu'une partie de l'Europe, puisque quand on regarde les architectures qui sont présentes, c'est essentiellement des architectures qui rappellent l'Italie ou qui rappellent le classicisme français. Je pense pas que ça ressemble à ce qu'on voit de façon courante dans les pays d'Europe centrale ou dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc on voit bien que ça a été construit par rapport au noyau fondateur et pas du tout dans une vision d'une Europe large. Donc c'est peut-être ça qu'il y aurait à revoir, c'est trouver des symboles qui soient plus universels que ces architectures un peu datées et un peu concentrées sur une partie de l'Europe.
Plantu, qui est décidément très consensuel aujourd'hui, pas non plus la moindre statue.
On est en plus à la fondation du doute et je viens apprendre sur le doute et moi j'ai besoin de douter. Et quand j'ai eu Ben au téléphone il n'y a pas longtemps, il m'a dit il faut même douter de Ben. Et je trouve que c'est mignon comme formule.
Alors, on laisse de côté la monnaie qui nous sert quand même à vivre dans 19 pays, c'est pas rien tout de même. Mais Plantu, pas de statue de grand fondateur de l'Europe. Par exemple, une statue de Jean Monnet, je n'en ai jamais vu.
L'expo Décoder les étoiles, on a des dessins de Jean Monnet, on a des citations de Jean Monnet, quitte à mettre à côté des dessins qui dézinguent un peu. Mais à la fois, notre boulot, c'est de montrer tout ce qui est référence au père fondateur de l'Europe, et il faut jamais l'oublier. Regardez, ce dessin, il date des années 70, et à l'époque, on était 6, ou je sais pas, ou 9, je sais plus. Je travaillais dans un journal qui s'appelait 30 jours d'Europe. Et c'était un journal de la, dont on appelait ça la Commission européenne à l'époque. Et moi, quand je voyais mon rédacteur en chef, le soir, il allait voir Jean Monnet. Et moi, j'étais scié. Moi, j'étais un militant européen. Mais ça n'empêche pas qu'en couverture, je faisais que des mecs qui faisaient hissaient le drapeau avec les neuf et que chacun tirait la couverture vers lui, mais chacun tirait la honte du drapeau vers lui parce que il voulait utiliser l'Europe à son propre bénéfice. Et d'ailleurs, je suis allé en Hongrie après 89, où j'ai rencontré le président hongrois, à l'époque où moi, la Hongrie, c'était l'espoir. On est en 89, on est en 90, le mur de Berlin vient de tomber, et on se dit, mais c'est maintenant, parce que sinon les Russes, ils vont piquer la Hongrie, ils vont piquer la Pologne. Donc il faut faire un accord tout de suite. Et moi, j'étais un peu comme les gens de Bruxelles, à me dire, il faut absolument qu'on travaille avec eux, on verra les détails plus tard. Alors les détails, ils tournent dessus aujourd'hui. Mais à la fois, il fallait absolument qui ne tombe pas sous l'emprise de la fin de l'Union soviétique, parce qu'on savait bien que les Helsinki et les futurs Poutine allaient mettre la main sur la Hongrie, ce qui n'est pas le cas, mais aujourd'hui, ils nous pètent un peu à la gueule. Et d'ailleurs, on se bat pour qu'en Hongrie, on a des dessinateurs qui se battent à Budapest, et je me souviens d'avoir alpagué des gens de l'Europe en leur disant « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous voyez bien qu'il y a un journal qui s'appelle Barricade à Budapest, et ils font des dessins antisémites, parce que les dessins, nous, on est avec des dessinateurs, mais des fois, il y a des dessinateurs, ils font ce que nous, on faisait les dessinateurs dans les années 20, ils font des dessins antisémites. Et donc, notre boulot, c'est de dire attention, alerte. Et donc, on alerte les gens, les responsables de l'Europe, pour dire l'antisémitisme grimpant qui monte en Pologne et en Hongrie, eh ben, les dessinateurs, malheureusement, des fois, ils dérapent. Et donc, on a des copains de Cartooning for Peace à Budapest et ailleurs et à Varsovie, qui nous aident à montrer une Europe qui va essayer de marcher sur ses 28 jambes.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, au rendez-vous de l'histoire de l'Ouac. L'Europe, quelle image, avec Plantu et Pierre Kroll, dessinateur, et avec Christophe Charles et Daniel Roche, historien. Dessiner, penser, interroger l'Europe, c'est aussi peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'ont en commun un Estonien, un Portugais, un Irlandais et un Grec, Christophe Charles?
Ça dépend des domaines. Si on prend la religion, il y a parfois des catholiques dans les trois. Parfois, c'est des plats. Hein. Dans notre livre, on a montré que la pizza était devenue un plat européen et même mondial, et pourtant au départ c'est un plat typiquement italien. Si on pense à la musique, ça circule partout et finalement ça peut être réapproprié partout. Pour la bande dessinée, nous savons bien que le grand héros belge Tintin est devenu un héros mondial. Donc tous les domaines de la culture, tous les domaines de la civilisation européenne, on peut voir qu'elle arrive à pénétrer dans la plupart des pays, mais chaque fois avec des recettes différentes, avec des appropriations différentes, avec des spécificités. La pizza grecque n'est pas la pizza italienne ni la pizza française.
Alors je vais poser la même question à Daniel Roche. La pizza et Tintin, ça suffit pas pour unir et unifier les Européens. Peut-être qu'il faut une mémoire commune. Est-ce qu'elle existe de Tallinn à Lisbonne, de Dublin à Athènes?
Je pense que les historiens sont coupables ici parce que il y a eu peu d'histoires réussies, sauf peut-être à sa façon l'histoire de Christophe Pomian, qui était un Polonais et qui s'est beaucoup occupé des questions du patrimoine culturel à Bruxelles. Cette histoire reste encore à écrire du point de vue de cette vision tiraillé entre les crises, la tension et la communauté. Mais je crois qu'il ne faut pas chercher une unité qui serait totalement vaine et inutile. Les différents pays de l'Europe ont besoin de ce que Kant appelait les caractères nationaux originaux. Se dire anglais en se référant à des questions alimentaire ou vestimentaire qui caractérise dans l'imaginaire la nation britannique ou l'appartenance à la British Society, c'est une chose et ça devrait jouer à peu près le même rôle qu'au XVIIIe siècle quand la totalité des élites européennes parlait le français pour la plupart de ses représentants et se représentait les caractères nationaux comme un moyen de mesurer la distance avec le caractère de base qu'était le caractère français, parce que c'était le modèle de la civilisation et de la population. On est en train de courir après le caractère européen. Il n'est pas encore défini. Le sera-t-il et comment? Le dictionnaire essaye de donner des réponses, puisqu'en parcourant tous les domaines, il permet à chacun, et selon ses besoins, de retrouver ses questionnaires, de retrouver ses références unitaires, de retrouver des racines ou pas.
Pierre Coyle, vous aviez envie de réagir.
Oui, je voulais juste citer un de ces domaines, justement, parce qu'il ne l'a pas été. En même temps, je réponds très brièvement à Jean Plantu. Non, moi, j'ai pas raté toutes mes études. J'ai réussi l'architecture et puis une licence en urbanisme et une licence en environnement. Mais cela dit, ça me sert strictement à rien parce que je fais un métier dans lequel on m'a jamais demandé si j'avais terminé l'école primaire. Mais enfin, c'est pour vous amener à l'urbanisme. Parce que ça, c'est vraiment bien une preuve qu'il y a quelque chose dans l'Europe qui est pareil. C'est-à-dire que du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Europe, nous avons en gros les mêmes fondements de l'urbanisme. Le principe d'un centre-ville où il y a généralement une église, le pouvoir religieux, le pouvoir civil, parfois juste à côté, parfois un peu plus loin, etc. Et puis la ville qui grandit autour de cela et des régions géographiques, topologiques, etc. qui seront particulières, c'est vraiment européen. Hein. La ville américaine, c'est pas ça du tout. Aller chercher le centre-ville de quel... Alors on dit toujours San Francisco, c'est plus européen, bien sûr. Il y a les contre-exemples. Mais nulle part au monde, en Afrique, en Asie, on ne construit pas les villes de cette façon-là. C'est tout à fait autrement. Donc c'est juste se rappeler qu'il y a une culture quand même commune, je ne sais pas comment on se l'est partagé et tout, je ne vais pas faire toute l'histoire de l'urbanisme, mais de Tallinn à la Sardaigne, on fait les villes, on a créé les villes de la même manière. Et on s'y retrouve tous quand vous allez comme touriste dans une ville d'Europe quelque part, ben vous cherchez le centre-ville, où vous trouvez le meilleur hôtel d'ailleurs, et puis les restaurants, etc. Voilà, c'est la preuve que ça existe. Et puis si on veut faire la différence, l'architecture par exemple, elle est différente, l'urbanisme elle-même et l'architecture est différente.
Plantu, vous avez déjà rencontré le peuple européen, ou en tout cas l'homo europeanus? Parce que quand vous dessinez, on voit l'allemand avec l'anglais avec le belge comme ceci, l'italien comme cela, et l'européen, il existe?
Oui, et d'ailleurs l'anglais, je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire, je le fais avec des grandes dents. Déjà Margaret Thatcher, il y avait des dents, mais elle faisait des gencives de pas possible. Et déjà Theresa May, elle a les mêmes dents que Thatcher. Et si vous vous souvenez les grandes vacances avec De Funès, quand le petit, il va en Écosse, puis qu'il se réveille le matin et qu'il est « Oh bonjour, good morning !» Et en fait, la maman de la maison, elle a des dents incroyables. Et je sais pas comment ils sont faits, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme dentifrice, il y a un souci. Donc nous, évidemment, on se jette dessus et on aime les différences. On cultive le paradoxe, on cultive les clichés, et à la fois, on essaye de faire en sorte que finalement on est ensemble. Et quand on fait venir des dessinateurs britanniques avec nous, eh ben on rigole de ces clichés et on construit des ponts entre les opinions et les régions. C'est l'avantage du dessinateur de presse.
Pierre Kroll, quel est l'imaginaire européen aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un imaginaire commun?
Je vais répéter un peu ce qu'on a dit. Il pourrait être dans la diversité. C'est pas pour ne rien dire. Je veux dire, on peut se créer un imaginaire dans lequel on est heureux de ressembler aux autres et heureux d'en être différent. Nous, on utilise effectivement tout le temps des clichés, comme des gens, mais si je dessine un tyrolien avec une, ils en ont plus souvent des culottes de peau, ou, mais il y a des gens qui viennent de me reprocher, ah, c'est toujours ce cliché de l'écossais en kilt. Alors, je réponds comme ça, je dis, il y a plus d'écossais qui mettent de kilt que de marocains. Voilà. Donc, c'est déjà pas tout à fait faux. Voilà. Mais ça veut dire que j'ai rien dit de plus, je les ramène pas à n'être que le cliché qu'ils sont. Donc, cet imaginaire complexe, la complexité, c'est un bel imaginaire. Moi, j'aime pas les imaginaires tout simples. Donc, l'imaginaire de la complexité, c'est celui que j'aurais tendance à proposer à l'Europe.
Et peut-être que quand Jean-Paul Gaultier est en kilt, peut-être qu'il veut montrer un signe européen, peut-être. Je sais pas. En tout cas, il a des couilles. Enfin, j'ai pas été regardé. Hein,
mais
enfin,
et non, mais... Thérèse Amet en marinière.
Là, ça dérape. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, on peut pas tout dire à RFI quand même.
Christophe Charles.
Non, mais je pense que l'Écossais, il veut pas ressembler à un Anglais, c'est surtout ça.
Ah ben oui, aussi.
Parce qu'il a vu, il a vu les dessins de Plantu. Donc...
Alors, Christophe Charles ou Daniel Roche, en tout cas, une question plutôt à un historien qu'à un dessinateur. Longtemps, l'Europe a cru que sa civilisation était universelle, et puis elle est évidemment remise en question. Ça pose un problème à l'Europe, ça aujourd'hui, et aux Européens?
Ça a surtout posé un problème aux Français, parce que les Français étaient encore plus convaincus qu'ils étaient non plus supérieurs au reste, mais même supérieurs aux Européens, ça c'est clair.
C'est vrai qu'il y a une bonne définition de l'Europe pour la France, que ce que c'est que l'Europe, c'est la France en plus grand.
Voilà, bah, c'est déjà ce que disait Victor Hugo en 1869, les États-Unis d'Europe auront pour capitale Paris, donc c'était clair. Et pas Bruxelles, il n'avait jamais eu l'idée que ça serait Bruxelles.
Je sors un livre aux Arènes le 7 novembre qui s'appelle « Les Français vus par un Belge ». Voilà, je vous invite dans vos librairies...
Non, effectivement, il y a eu toute une période de contentement des Européens, l'idée qu'ils étaient supérieurs aux autres, enfin ça a été particulier notamment dans la période colonialiste, et puis le XXe siècle aura appris un petit peu de modestie, il me semble, à la fois parce que au lieu de continuer à être supérieurs, ils se sont entretués, et ensuite, après s'être entretués, ils se sont soumis à des régimes dictatoriaux pour certains, et pour d'autres, plus ou moins, à des colonisations externes sous la houlette des États-Unis, donc... Tout ça, évidemment, c'est quand même des chocs qui ont complètement remis en cause cette idée. Alors aujourd'hui, il y a un retour hein, de cet idéal avec cette notion de la peur des Blancs par rapport à d'autres peuples ou la haine de certaines religions. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais je pense que c'est plutôt des réactivations de vieilles choses et qui ont déjà été tellement condamnées par l'histoire. Bon, je ne dis pas qu'elles ne vont pas réussir. Bon, il y a des endroits où ça réussit, malheureusement. Mais je pense quand même que les choses ont déjà été réglées. Enfin, qu'on ne peut pas revenir à cette espèce d'autosatisfaction et d'impérialisme dominant qui a été caractéristique d'une certaine partie de l'Europe. Et surtout, il y a des urgences beaucoup plus grandes qui seraient de, effectivement, d'une part, surmonter les crises actuelles et d'autre part, de faire face à une autre crise qui n'est pas la crise seulement de l'Europe, qui est la crise du monde entier, c'est-à-dire le rapport à l'environnement. Et ça, c'est pas en disant on est meilleur que les autres qu'on va la réussir, c'est en trouvant des solutions collectives et à une échelle qu'on n'a jamais trouvé pour l'instant.
Alors on arrive au terme de cette émission. Comment construire un récit européen? Dans les années 50, je dirais que c'était assez facile. L'Europe, c'était la paix, la prospérité et l'état de droit. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi?
Ben, c'est toujours la paix, la prospérité et l'état de droit, sauf qu'il faut le reconstruire et il faut le redéfinir parce qu'il n'est plus aussi solide ou il n'est pas solide suffisamment pour qu'on puisse dire que c'est définitif, c'est tout.
Daniel Roche.
On peut quand même pas nier qu'elle a été longtemps un lieu de progrès et qu'elle a transmis des institutions qui pouvaient soutenir ce progrès, mais on ne doit pas simultanément nier les effets négatifs qui ont été justement. Alors comment peut-on écrire l'histoire de cette diversité? Ben, c'est pas à nous de le dire, parce que dans le fond, c'est une histoire qui n'est pas terminée du tout, et dont justement les différentes péripéties montrent la complexité à chaque tournant. Qui aurait dit qu'un gouvernement populiste prendrait le pouvoir en Italie il y a un an et demi? Eh bien, ici, je ne crois pas qu'on puisse trouver quelqu'un qui l'aurait prédit. Donc, nous nous trouvons à chaque étape devant des questions nouvelles. Est-ce que ces questions nouvelles doivent être éclairées immédiatement par le passé? Pas forcément. Mais peut-être dans quelques temps, le travail qui a été ici rassemblé, les différentes réponses qui ont été données à une multiplicité de questions permettront de répondre et de construire un schéma valable pour ces deux échelles temporelles et ces deux échelles spatiales qui tiraille toute cette histoire dans différentes temporalités comme dans différentes spatialités.
Alors Daniel Roche, pendant que vous répondiez à cette question, Plantu, avec sa main gauche et sa tablette, recherchait un dessin qui pouvait répondre à cette question. Quel récit pour l'Europe qui pourrait nous donner une image? Plantu, je vous invite à la montrer au public et à l'expliquer surtout.
Je l'ai fait surtout à l'instant parce que je me suis dit, on est à la fondation du doute, il y a du doute partout, on doute de l'Europe, et du coup j'ai imaginé un drapeau européen transformé en forme de point d'interrogation. Parce que ça répond un peu là où on est. On remercie la Fondation du Doute de nous accueillir. À la fois, on parle de l'Europe, et puis il y a des gens qui sont militants de l'Europe, sans aucun doute.
Je crois que ça peut être le mot de la fin, Plantu. Pierre Kroll, rien à rajouter?
Non, pas du tout, parce que Daniel Roche dit, ce n'est pas à nous de le dire, je ne vais donc pas le dire.
Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation à Blois, Maître Chablaoui à Paris, Stephen Esty. Merci aux équipes des Rendez-vous de l'Histoire de Blois et au Café Fluxus de la Fondation du Doute, si bien nommé, de nous avoir très gentiment accueillis. Pour réécouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique émission, ou l'appli RFI Pure Radio, sur la page de l'émission, des infos sur nos invités, et puis des références sur leurs livres, Daniel Roche, Christophe Charles, l'Europe, encyclopédie historique aux éditions Actes Sud, et Cartonine for Peace, les droits de l'homme, c'est pour quand, chez Gallimard. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez à Blois, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.